de retour dans le magazine de Canal Sud. Il est 13h05, très exactement. Et on a du beau monde dans le studio. Salut à vous, Mathieu, Assia et Léopold.
Salut.
Bonjour.
Alors du coup, vous êtes là parce que ce soir, il y a une rencontre, présentation de ton bouquin, Léopold, qui s'appelle « État d'urgence au pluriel » et qui est sous-titré « Une histoire spatiale du continuum colonial français ». Et donc c'est ce soir au kiosque 36 rue Daniel Casanova. Est-ce que peut-être pour commencer, vous pourriez vous présenter autour de la table, ceux qui veulent se présenter?
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Léopold Lambert, je suis architecte de formation et le rédacteur en chef d'une revue anglophone papier et en ligne qui s'appelle The Funambulist, qui tente de lire un petit peu les luttes à travers un prisme spatial. Et à mes heures perdues, j'essaie de faire aussi de la recherche de manière un peu indépendante. Et ce qui, après 5 ans, a donné ce livre-là.
Ok.
Alors pour ma part, Mathieu, je fais partie de l'association Survie qui invite Léopold ce soir au kiosque. Donc une association anticoloniale que les auditeurs auditrices de cette radio connaissent très bien parce qu'on a longtemps fait une émission qui s'appelle « Décolonisons » sur cette antenne. Et puis par ailleurs, on pourra peut-être dire un mot aussi d'un autre projet que je porte, qui s'appelle Enquête Critique, donc un site internet qui se lance ce mois-ci, enfin qui s'est lancé le mois dernier pour être précis, voilà, dont on pourra revenir dessus tout à l'heure peut-être.
Ouais, carrément.
Et moi, bonjour à tous, je m'appelle Assia Al-Kasmi, je dirige, j'ai cofondé et je suis éditrice aux éditions Premier Matin de Novembre. C'est une petite maison d'édition parisiano-toulousaine, on peut dire ça, qui édite, ou l'inverse.
Oui, toulousienne-parisienne.
Ouais, peut-être l'inverse. Qui édite des ouvrages anticolonialistes, décoloniaux et anti-impérialistes. Voilà.
Okay.
Avec une douzaine, si on compte les rééditions, de livres au catalogue.
Ok, super. Peut-être qu'on pourra en reparler.
On pourra y revenir, oui.
Super, tout à l'heure. Mais pour commencer, peut-être, Léopold, déjà merci parce que vous m'avez passé le bouquin et j'ai pu le parcourir un petit peu, donc merci à vous. Et en gros, toi, tu as fait une recherche, tu as choisi d'enquêter sur trois espaces-temps qui sont la révolution algérienne, l'insurrection kanak de 1984 à 1988 et les insurrections dans les quartiers populaires en France de 2005 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais raconter un petit peu, parler de ta démarche, comment toi, t'en es arrivé à travailler là-dessus et de choisir ces trois terrains de recherche ?
Oui, tout à fait. En fait, ce qui lie ces trois espaces-temps, c'est en particulier l'état d'urgence, donc cette loi créée en 1955 pour véritablement écraser la révolution algérienne, ou d'ailleurs, je devrais dire, une loi pour légaliser l'écrasement de la révolution algérienne, parce que, bien évidemment, l'armée coloniale n'avait pas attendu d'avoir une loi pour agir à son gré. Et donc, en fait, l'état d'urgence est bien évidemment, comme le titre l'indique, le fil conducteur du livre, son histoire et notamment son histoire coloniale. Il y a aussi une toute petite partie du livre sur son application à Tahiti en 1987, en relation notamment aux essais nucléaires. Mais en fait, l'état d'urgence, c'est, je l'aborde aussi de manière à... Comme un révélateur ou quelque chose qui exacerbe quelque chose des structures coloniales qui existent d'ores et déjà sans avoir besoin d'une loi qui vient un petit peu couronner ça. Et donc ça me permet de parler des structures coloniales en Algérie, en Kanaky et de manière un tout petit peu différente parce qu'on se situe en France, mais avec une inertie, ce qu'on pourrait appeler une inertie coloniale dans les quartiers populaires en France.
Ok. Est-ce que tu peux pour présenter, enfin pour définir un petit peu à quoi est-ce que ça correspond l'état d'urgence. Bon, après, quand on parcourt un peu ton bouquin, on comprend que ça correspond quand même à un système politique colonial plus généralement, mais concrètement au niveau de la des pratiques policières judiciaires qui sont employées, c'est, est-ce qu'on peut revenir sur ce que c'est que l'état d'urgence?
Oui, on peut d'autant plus y revenir que maintenant on vit dans un état d'urgence généralisé avec la loi SILT que le gouvernement Macron a fait passer en octobre 2017. Donc en fait, le très gros des mesures que l'état d'urgence permet est désormais dans le droit commun, ce qui est pas rien. Et d'ailleurs, ça s'est passé sans aucune protestation, quelle qu'elle soit. Donc en gros, très simplement, l'état d'urgence, ça permet de déclarer des couvre-feux, sauf qu'en fait, on réalise que les couvre-feux, ils peuvent être faits autrement. De faire des perquisitions administratives sans passer par un juge à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Donc c'est ce qu'on a vu de manière très saillante en 2015 avec des milliers de foyers musulmans qui se sont fait perquisitionner parfois au milieu de la nuit et par des équipées policières surarmées et souvent manifestant un racisme absolument explicite. Ça permet également les assignations à résidence qu'on a vues dans un peu plus de 10% de ces perquisitions et donc qui condamnent quelqu'un à une mort sociale, entre guillemets. Bon, après, il y a des choses de type de la remise d'armes qui était peut-être un petit peu plus adaptée aux années 50 et 60 qu'aujourd'hui. Il y a quelque chose qui a été extrêmement utilisé plus récemment, c'est la délimitation de périmètres de contrôle en fait, au sein desquels, enfin pour accéder à ces périmètres, en fait, il peut y avoir un contrôle policier tel qu'on, enfin, je pense qu'on l'a tous vu maintenant. Enfin, on va en manif et on se fait contrôler avant même d'avoir commencé. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très très utilisé et qui a été transféré tel quel dans la loi CIL, donc qui est toujours totalement actif. Et puis...
Ce que tu dis, c'est qu'en fait, là, avec cette loi, il y a la possibilité d'instaurer en tout temps des contrôles ciblés de certains territoires avec une sorte d'élargissement total du droit de la police sur ces zones-là.
Absolument.
Alors qu'avant... C'était peut-être pratiqué, mais pas légalisé de procéder de la sorte.
En tout cas, ça permet de délimiter des territoires dont l'échelle n'est absolument pas donnée, en plus. Donc ça peut être des territoires très grands. Moi, je l'ai connu pour la première fois à une manifestation contre la loi travail de 2016, où, je ne sais pas si les auditrices et les auditeurs se souviendront, mais il y avait eu une manif à Paris, à Montparnasse, avec un débile qui avait pris un marteau et qui avait fait trois petits trous dans la façade en verre de l'hôpital pour enfants Necker, et ça avait permis tout un montage médiatique autour du fait que les manifestants étaient violents, et donc la manifestation d'une semaine plus tard a été contenue autour du bassin de l'arsenal de la Bastille. Donc pour celles et ceux qui connaissent Paris, c'est pas énorme, quoi, et il y avait des murs pliants à l'entrée de chacun des accès à l'arsenal avec une fouille systématique. Moi, par exemple, j'avais pas pu rentrer avec mon casque de vélo, quoi. Casque de vélo, arme connue, très dangereuse. Et quand même, juste pour ajouter un dernier point qui est quand même assez important dans l'état d'urgence, c'est aussi la possibilité de fermer des lieux de réunion, et plus récemment ça a été précisé que des lieux de culte, et bien évidemment un certain nombre de mosquées qui ont été ainsi fermées de manière administrative grâce à l'état d'urgence.
D'accord. Mais du coup, ce que tu montres, enfin là on le définit un peu hors sol, mais tu montres bien qu'il a une histoire et une histoire de coloniale, en fait, cet état d'urgence. Et est-ce que tu pourrais peut-être donner des petites bases historiques, raconter ce que tu racontes dans ton livre de comment ça a été mis en place au début en Algérie, par exemple?
Alors, l'état d'urgence, il a été appliqué 8 fois dans son histoire. La première fois, c'est donc au début de la révolution algérienne, et encore une fois pour donner une base légale à des pratiques qui avaient déjà cours, de toute façon. Et qui parfois se basait sur des lois du 19e siècle. Enfin, on trouve toujours, finalement, l'État trouve toujours un moyen de se raccrocher à un cadre légal, même quand il est hors de tout cadre. Les deux autres fois, et en fait, ce premier état d'urgence était appliqué en Algérie. Ce qui est assez intéressant et qu'on ne voit pas forcément comme ça quand on va un peu vite dans l'histoire de l'état d'urgence, c'est que celui de 1958 et celui de 1961-62, en fait, étaient appliqués uniquement en France pour la bonne raison qu'en fait, en Algérie, c'était les lois de la guerre qui gouvernaient, donc on n'avait pas besoin finalement d'une loi administrative comme ça qui rajoutait quelque chose. Et ces deux états d'urgence ont été provoqués par les deux putschs qui ont eu lieu par les officiers coloniaux en Algérie, notamment celui de 58 qui a ramené De Gaulle au pouvoir et qui a mené à la création de la Ve République. Donc on est vraiment dans la fondation des structures politiques dans lesquelles nous vivons encore aujourd'hui. Donc c'est quand même assez conséquent. Et bien évidemment, bien que ce soit des états d'urgence qui aient été pris à l'encontre de putsch de militaires, bien évidemment, les premiers visés par l'ensemble des mesures sont toujours dans le cadre de la révolution algérienne, des Algériens eux-mêmes, des deux côtés de la Méditerranée, et notamment en France et notamment à travers notamment en Île-de-France avec la direction de la police par Maurice Papon à partir de 1958. Et après, peut-être juste pour dire vite fait, il y a eu trois applications en Océanie. Une au moment pour contrer l'insurrection kanak de 1984-1988, dont je parle très longuement dans le livre, parce que c'est extrêmement important. Comme je disais plus tôt, une assez courte à Tahiti et une encore plus courte à Wallis et Futuna en 1986. Et après, bien évidemment, il y a le soulèvement des quartiers de 2005 et puis celui qu'on a connu plus récemment en 2015-2017.
Ouais, du coup, si je peux me permettre, une des raisons qui font que c'est important pour nous à Survie d'inviter Léopold ce soir au kiosque, c'est... Donc il y a ce travail global sur ce continuum colonial en France qui structure vraiment, qui est à la base de l'État français, de son pouvoir et de la puissance française. Et ça, c'est fondamental. Une des spécificités trop rare vraiment de ce livre, qui est que, en fait, on entend enfin parler de la politique, de la vie politique de la Kanaky, Nouvelle-Calédonie et d'autres espaces en Océanie que tu viens de mentionner, qui sont carrément absents des radars.
Nos radars.
Oui, des radars en France. Même dans les milieux de lutte en France, je veux dire, on a des notions quand même assez bonnes de la colonisation d'Algérie, de la guerre d'Algérie, de la torture, de la répression des descendants de colonisés, du contrôle des corps dans les quartiers populaires. Et c'est vrai que sur la Kanaky en particulier, c'est beaucoup moins connu. Donc c'est super intéressant que dans ce livre, il y a quand même une part conséquente, je dirais presque majoritaire, si on veut raisonner en quantitatif, de contenu qui parle de ces histoires-là, qui parle des faits politiques là-bas, qui met au même niveau historique la colonisation de ce pays et celui de l'Algérie, et ce qui est très important. Et je trouve, peut-être ça peut être un peu quelque chose... Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un peu, peut-être par des illustrations, par exemple, des liens et comment ça rentre en résonance, par exemple, avec l'histoire de la révolution algérienne, tant au niveau de la répression que des luttes. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui est aussi intéressant dans le livre, c'est que c'est sur ces deux plans-là en permanence qu'on se situe. Voilà, qu'est-ce qu'il y aurait peut-être comme illustration de ces ponts spatio-historiques qu'on peut tisser entre ces territoires. Et en particulier, donc je parle vraiment spécifiquement de la Kanaky.
Ouais. Ce qui est sûr, c'est que la chose qui les lie bien malgré elle, c'est le colonialisme de peuplement français et les mêmes logiques qui ont été appliquées, mais jusqu'à encore récemment, enfin de manière explicite dans les années 70, notamment à travers le. le mandat de Pierre Messmer, qui s'est débrouillé pour amener encore plus de colons en Kanaky afin de garder les peuples kanaks en situation de minorité dans leur propre pays, et minorité qu'on voit bien aujourd'hui qui pose problème, parce que les référendums d'indépendance auxquels on a pu assister, et celui qui arrive en décembre à nouveau, on voit bien, le jeu est truqué, quoi. Donc ça, c'est clair que les logiques de colonisation de peuplement, ce sont les mêmes. Après, ce sont parfois les mêmes personnes, tout simplement, tant du point de vue des hauts fonctionnaires ou des militaires éventuellement, mais même des colons eux-mêmes, parce qu'il y a un certain nombre de pieds noirs qui se sont installés ensuite en Kanaky, et c'était pas les petits colons ruraux d'Algérie, c'était vraiment les membres de l'OAS et tout ça qui ont remis le couvert dans les années 80, lorsque l'insurrection kanak a débuté. Donc on voit énormément de ponts. Il y a aussi un pont qui est historique, qui est très bien connu en Algérie et en Kanaky, qui est celui des déportés kabyles après l'insurrection Mokrani de 1871, avec donc toute une population algérienne, enfin beaucoup d'hommes algériens qui se sont retrouvés en Kanaky et qui aujourd'hui forment encore une communauté à part entière à Bouraï. Et donc voilà, il y a des liens qui ont été faits, même si la communauté algérienne kabyle qu'on trouve en Kanaky, elle est plutôt identifiée du côté des colons, en fait, parce qu'il y a toute une histoire autour de ça, mais il y a eu aussi des Algériens qui sont devenus kanaks, tout simplement.
On peut peut-être faire une petite pause musicale et revenir juste après. C'est parti.
En ayant
on est de retour dans le magazine de Canal Sud. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter? Est-ce que vous voulez présenter un peu cette musique?
Bah, c'est rigolo, c'est pas moi qui l'ai apporté, mais c'est Vamalé qui chante, donc un groupe kanak qui chante sur l'indépendance, comme vous l'avez bien entendu. Et moi, ça me remet complètement dans mes deux visites au pays, sur la route, à écouter Radio Jido. En arrivant hors antenne, on disait à quel point une radio, c'est vraiment un outil extraordinaire. Et en kanaki, la radio, c'est Radio Jido, la radio du mouvement indépendantiste et la radio kanak. Et avec plein de choses extraordinaires, autant de musique que des petites annonces et des messages venant de la Grande Terre vers les îles et inversement de gens qui sont loin de leur famille et tout ça. Et puis des émissions un petit peu plus documentaires et tout ça. Donc c'est un bel hommage. Ça me fait plaisir de rendre hommage sur une radio à Radio Jido.
Chouette. Et justement, là, pendant la musique, on disait que c'était peut-être cool de reposer des bases historiques de l'histoire de la Kanaky et l'histoire du mouvement indépendantiste. Est-ce que tu pourrais peut-être de manière un peu synthétique, si tu peux parler un petit peu de l'histoire de la Kanaky et de ce qui s'est passé justement dans les années 80.
Voilà. Et peut-être, je me permets aussi peut-être de préciser des bases historiques, mais peut-être même géographiques.
Oui.
Et des usages des mots. Je ne sais pas si les gens allument leur radio à l'instant et entendent parler de Kanaky. Je ne sais même pas s'il y a beaucoup de gens qui savent de quoi on parle.
Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être en France quelque chose d'un petit peu générationnel où tout un chacun peut-être et toute une chacune, c'est étrange, mais pourquoi pas.
Allez, on l'invente.
On l'invente. D'un certain âge, enfin on va dire au moins la trentaine, se souvient sans doute du massacre colonial d'Ouvéa en 1988 qui avait mis justement le pays un petit peu dans les imaginaires français de la pire des manières, enfin de la manière la plus tragique, je veux dire. Mais effectivement, c'est vrai que le manque de solidarité venant de France vis-à-vis du mouvement indépendantiste, à part des mouvements peut-être indépendantistes corses, bretons, ou des personnes les militants du Larzac et tout ça, a fait que effectivement, enfin comme Mathieu disait, on peine à faire de ce pays un centre pour nous alors qu'on le doit, j'ai envie de dire. Mais donc voilà, Kanaky, c'est le nom que les peuples kanak ont choisi, enfin en tout cas le mouvement indépendantiste des années 80 a choisi pour renommer la Nouvelle-Calédonie, qui se situe donc au large de l'Australie, dans ce qu'on appelle la Mélanésie. Donc il y a, bien que ce soit une dénomination coloniale, finalement il y a des solidarités qui existent entre peuples mélanésiens, notamment les peuples qui ont réussi à vaincre le colonialisme, comme les Fidji ou le Vanuatu, et donc qui expriment leur solidarité assez fréquente avec les deux grands peuples mélanésiens qui sont toujours en lutte, à savoir les Kanaks et puis les Papous de Papouasie occidentale, qui sont eux toujours occupés par l'État indonésien et l'armée indonésienne en particulier. D'un point de vue historique, la découverte coloniale, enfin ce terme qu'il faut utiliser avec des énormes guillemets, a été fait par James Cook, donc par les Britanniques. Mais c'est la France qui, en 1853, envahit l'archipel et déclare officiellement prendre possession de l'archipel. Et quelques années plus tard, en font une colonie pénale, donc où on envoie de la même manière qu'à Cayenne, en Guyane, une autre terre autochtone, à l'autre bout du monde, on envoie les déportés de France d'ailleurs de l'Empire colonial pour les envoyer au bagne, tout simplement. On a des révoltes kanak qui existent d'ores et déjà, enfin dès le début. Il y a notamment un monument qui existe à Puebo sur la Grande Terre, aux 10 Kanaks qui ont été guillotinés en 1868 suite à une embuscade qu'ils avaient tendue à l'occupant. Et la grande révolte qui est vraiment présente dans tout l'imaginaire politique kanak, c'est celle de 1878 par le grand chef Attaï, qui n'est pas loin de réussir à chasser l'occupant, et mais les autorités coloniales étant ce qu'elles sont, elles réussissent tout de même à convaincre notamment certaines tribus kanak de se battre pour elles. Et le grand chef Attaï est assassiné, sa tête est tranchée et envoyée en France, et elle ne reviendra au pays qu'en 2014, donc très récemment. Et il vient d'être inhumé d'ailleurs à travers une très belle cérémonie il y a à peu près un mois de ça sur ces terres. Une autre très grande révolte est celle de 1917, alors que à peu près, je crois, alors il faudrait vérifier, mais de mémoire il me semble un Kanak sur six dans l'âge, comme on dit, est envoyé à l'armée française en pleine Première Guerre mondiale. Et donc il y a une grande révolte par le grand chef Noël en 1917, et qui elle aussi est détruite par les autorités coloniales. Et le mouvement indépendantiste, lui, il naît plutôt dans les années 60 à travers un certain nombre d'organisations, et notamment des jeunes militants qui sont allés, qui ont connu mai 68 en France. Donc c'est pas inintéressant, là encore, comme pont aussi. Et donc le mouvement indépendantiste se bâtit un petit peu à travers ces années-là, et va s'intensifier de manière très forte en 1984 avec la création du Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, donc le FLNKS. Donc là encore, on a un pont très clair avec l'Algérie. Enfin, le fait que ça s'appelle le FLNKS, c'est pas innocent, et c'est bien évidemment un hommage au FLN algérien. Et à sa tête, notamment Jean-Marie Tjibaou, Yewene Yewene et Éloi Machoro, qui lui va être assassiné par le GIGN français le 12 janvier 1985. Et en fait, l'état d'urgence commence juste à ce moment-là. Et pour les gens qui aiment l'audio, on peut recommander le documentaire de Benoît Gaudin sur Éloi Machoro. Justement, c'est un documentaire très long, ce qui est très important, parce que ça aurait été très simple, j'en sais rien, mais ça aurait été plus simple sans doute pour lui de faire un truc un peu court, un peu superficiel, et un peu comme on fait quand on vient de loin et que finalement on ne passe pas son temps à respecter un petit peu la parole qu'on recueille. Et lui, Benoît, il a très bien fait, donc c'est disponible en ligne si personne souhaite l'écouter. Et donc, juste pour finir, l'insurrection de 84-88 se termine notamment par ce massacre à Ouvéa qui décime complètement, qui met en deuil l'ensemble du pays kanak et qui finalement mène à deux accords de Matignon et Oudinot en 1988 qui divisent le mouvement indépendantiste tout simplement et qui va mener même à l'assassinat de Jean-Marie Tjibaou et Yewene Yewene en 1989, les trois personnes que j'ai citées un petit peu, les trois têtes du mouvement, sont toutes été assassinées durant cette période-là. Et donc ça nous mène jusqu'à 1998 où, 10 ans après les accords, un nouvel accord est passé, l'accord de Nouméa, et qui prévoit finalement une transition vers plus d'autonomie qui existe, hein, il faut quand même le dire. C'est un pays qui est fonctionnel aujourd'hui, d'ailleurs on l'a bien vu dans la gestion de la pandémie. Et on a bien vu que ce qui justement venait abîmer cette gestion, par exemple, c'est le renfort envoyé de gendarmes français au pays, quoi. Donc on voit bien qu'à chaque fois, c'est le pouvoir colonial qui abîme cette autonomie de souveraineté.
Alors justement, tu parles de Jean-Marie Tjibaous et tu le cites dans ton ouvrage, puisque tu montres voilà, que c'est ce que tu disais au début, qu'en fait l'état d'urgence est un dispositif politique qui vise souvent à légaliser des pratiques qui existaient déjà avant. Et tu cites Jean-Marie Tjibaous, qui est donc militant indépendantiste kanak, qui déclarait en 85, lors donc de l'extension de l'état d'urgence à l'Assemblée nationale en France, en ce qui nous concerne, cela fait 130 ans que nous subissons l'état d'urgence. Du coup, on comprend bien ce que ça veut dire. Et à la fois, on se demande, c'est quoi, à quel moment les conditions sont réunies au niveau de l'État français pour appeler, pour on va dire promulguer ce dispositif-là. Peut-être tu peux répondre en parlant de l'exemple de la Kanaky, mais aussi à travers d'autres exemples que tu as pu étudier dans ton bouquin.
Oui, cette citation, elle est, je la ressasse trois fois dans le livre parce que pour moi, elle est tellement importante parce que c'est vraiment ce qui montre bien que l'état d'urgence, c'est pas un état d'exception, c'est juste un état de révélation ou d'exacerbation. Mais il faut aussi quand même dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que c'est pas rien non plus, donc c'est quand même quelque chose qui peut... que lorsqu'il est appliqué, on a, comme je dis, une exacerbation. Et généralement, il est appliqué. Il est appliqué aussi parce que c'est du spectacle, tout simplement. C'est une manière pour l'État français d'annoncer, regardez, nous faisons quelque chose. Donc, je pense notamment aux révoltes de 2005. C'est une façon de rassurer. De rassurer la classe moyenne et bourgeoise française, de dire voilà, nous allons appliquer l'état d'urgence, pour citer Sarkozy à l'époque, le ministre de l'Intérieur, bien connu, il disait de toute façon, nous allons l'appliquer seulement quand nous en avons besoin et où nous en avons besoin. Donc finalement, on voit bien que l'état d'urgence, il est appliqué sur un territoire donné. Et donc on peut tout à fait cibler des populations entières à travers ce territoire. Et d'ailleurs, on l'a bien vu en 2005 et même en 2015. Il y a des quartiers qui ont été mis en couvre-feu, notamment le quartier de la Madeleine à Évreux, qui est un grand quartier. Hein. Je crois que c'est au moins 10 000 habitants. Donc un quartier populaire qui est mis sous couvre-feu à l'exception de tous les autres. C'est-à-dire vraiment, on délimite et on punit comme ça un quartier entier. Et la même chose s'est passée en 2015 aussi. Donc voilà, c'est des effets d'annonce. C'est d'ailleurs tellement des effets d'annonce que j'exclus pas le fait qu'un jour l'état d'urgence soit à nouveau promulgué, alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne sert plus à rien dans la mesure où quasiment toutes ces mesures ont été incluses dans le droit commun.
Et du coup, il y a Sylvie Thénault, qui est une historienne qui a pas mal travaillé sur la question, que tu cites pas mal, ouais. Qui disait au sujet de l'état d'urgence et des couvre-feux de 2005 que selon elle, on pouvait envisager que l'État fasse appel à l'état d'urgence, non pas en dépit de son caractère colonial, mais précisément parce que c'était colonial, et que ça envoyait un message, comme tu dis, à cette classe, et je veux dire, c'est pas juste une question de classe, en l'occurrence, c'est aussi des gens qui se situent du bon côté ou du mauvais, selon le point de vue de la barrière coloniale, et donc les colons, on peut dire, je sais pas trop, c'est un corps social ou les néo-colons, je sais pas, et c'est intéressant, parce que toi, tu le situes sur ce point de vue, donc il y a la question du droit. Mais bon, en temps normal, je sais pas, ici à Toulouse, à la Rennerie, il y a un rond-point assez fin qui suffit de bloquer et qui est régulièrement bloqué, où il y a souvent des contrôles qui régulent l'accès de l'ensemble de la Rennerie au reste de Toulouse, qui passe au-dessus du périphérique. Il y a régulièrement des points de contrôle à cet endroit-là, hors état d'urgence. Bien évidemment, l'état d'urgence, il faut s'en méfier aussi comme angle d'aspect, d'approche, parce que c'est sous l'aspect du droit souvent qu'on le prend. Or, bon, je sais pas, il y a des centaines de personnes qui ont été tuées par la police en France. Ils avaient évidemment pas le droit de les tuer. Donc c'est vraiment, il faut vraiment prendre des pincettes avec cette notion juridique qui a tendance à enfermer un peu la pensée de temps en temps, quoi. Et si je me permets une dernière intervention, il y a quelque chose de très intéressant dans ton livre aussi sur Déjà à l'époque de l'état d'urgence en Algérie, on trouve les dirigeants communistes, enfin des députés communistes à l'Assemblée, qui trouvent comme argument principal pour s'y opposer le fait que, selon eux, ça risque d'être appliqué au mouvement social français, mouvement ouvrier. Et c'est pas tant le fait que... C'est intéressant parce qu'ils s'offusquent pas du tout qu'il y ait eu des massacres depuis 1830 en Algérie, ni qu'il y ait de la torture à ce moment-là déjà en Algérie. Non, non, eux, ce qui les intéresse, c'est... Bon, alors, ça peut être stratégique, mais je pense pas seulement. C'est que c'est d'abord le fait qu'ils puissent être directement concernés par ces mesures de répression. C'est pas sans rappeler ce qui s'est passé au moment de la COP21, au moment de l'état d'urgence de 2015 en France, où il y avait les militants de gauche, les militants écologistes qui ont été assignés à résidence, qui ont été réprimés en manifestation, au moment où il y avait des milliers de gens qui subissaient des perquisitions chez eux sur le seul critère d'être musulman, quoi.
Absolument. Alors peut-être juste pour donner un tout petit peu de crédit aux députés communistes que j'ai pu... Enfin, dont j'ai pu voir la voix, il y a une grosse différence entre évidemment les députés du Parti communiste algérien et qui sont bien évidemment blancs, hein, c'est des colons, c'est pas des Algériens qui sont et ceux du Parti communiste français qui effectivement, enfin l'histoire est bien connue, ont été à côté de la plaque du début jusqu'à la fin vis-à-vis de la révolution algérienne. Et effectivement, on voit des choses qu'on connaît très bien. Enfin, c'est l'histoire des LBD qui devraient rester en banlieue, des choses comme ça. Et donc tout argument qui essaierait de nous faire croire que quand quelque chose est appliqué à une population, elle peut éventuellement s'appliquer à une autre. Personnellement, je m'en moque, quoi. Enfin, je peux l'entendre venant de certaines voix. Je pense notamment à l'argument que Hassina Meshaei fait dans l'excellent livre qu'elle a écrit avec Siem Zin qui s'appelle L'état d'urgence permanent, où elle essaie un petit peu de porter ça, mais d'une autre voix que celle de la gauche blanche française. Mais personnellement, oui, effectivement, c'est pas du tout mon cadre de pensée, quoi.
Et peut-être, ouais, pour voir un petit peu les limites de l'analyse de l'état d'urgence en termes juridiques et légaux, toi, avec ton bagage d'architecte, t'insistes vachement sur la dimension architecturale, spatiale, territoriale de l'état d'urgence. Est-ce que tu peux présenter un petit peu cet aspect-là que tu développes dans ton livre ? Quelle forme ça prend ?
Oui, absolument. C'est presque moins un bagage que juste des lunettes, en fait. C'est-à-dire une façon de percevoir un petit peu le monde de manière spatiale et l'environnement bâti qui nous entoure, et de voir quels sont les systèmes politiques qui sont cristallisés à l'intérieur des murs qui nous entourent. Et donc, dans le cadre du livre, ça implique notamment l'étude des différentes prisons ou camps qui ont pu être créés dans le cadre justement de la contre-révolution coloniale. Ça implique, quand je parlais des périmètres de contrôle, ça implique une certaine architecture aussi. Une tarte à la crème, entre guillemets, qui est utile, hein, de réfléchir un petit peu à comment est-ce que quelque chose comme la ville est organisée comme contrôle des corps et comme système contre-insurrectionnel. On cite souvent Haussmann à Paris, c'est-à-dire à un moment où on vient détruire des quartiers entiers, construire des larges avenues et qui peuvent totalement amener la troupe en cas d'insurrection. Et Dieu sait qu'il y en a eu dans les années au 19e siècle. La même chose est vraie à Alger. On a détruit toute la Casbah basse après l'invasion de 1830. Et je parle beaucoup de la Casbah d'Alger, et on pourrait parler d'autres vieilles villes en Algérie, notamment la Casbah de Constantine. Je n'en fais pas une architecture anticoloniale, la Casbah, mais en revanche, j'en fais un lieu où la pratique, notamment la pratique armée anticoloniale, est facilitée par l'environnement bâti. C'est-à-dire que on se situe dans la vieille ville, un quartier très dense, bâti à flanc de colline, avec des rues un petit peu sinueuses. Enfin, en tout cas, tout un environnement bâti que l'armée coloniale a du mal à maîtriser, connaître. Et d'ailleurs, l'une des premières choses que l'occupant français a fait en arrivant à Alger, c'est de donner des noms de rues et numéroter les immeubles de la Casbah pour pouvoir un petit peu les administratiser. Un néologisme pas très joli, mais. Et de pouvoir mieux les contrôler comme ça, quoi. Donc. Et un truc que je trouve absolument génial que je crois avoir trouvé dans le livre de Mathieu Rigouste, aussi publié chez Premier Matin de Novembre, Un seul héros, le peuple, c'est le fait, faudrait vérifier si c'était bien dans ce livre, mais il me semble, si c'est pas le cas, ça fait quand même un bel hommage au livre, mais c'est le fait que de nombreuses personnes, voire tout le monde à la Casbah, ne fermaient pas à clé leur immeuble, en fait, et du coup ça permettait autant d'échappatoires aux membres du FLN qui se battaient.
Ok, non, je me demandais si on faisait une pause musicale, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on peut faire une petite respiration.
On peut.
Grâce à la vidéoprotection, aux agents de station et aux bornes sur les quais, la RATP veille à votre sécurité. Sécurité. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre.
De retour dans le magazine, j'espère que cette petite pause musicale aura réveillé vos oreilles.
en tout cas, oui.
Tu dis que je les endors ?
Non, pas du tout, j'ai pas dit ça. Alors il nous reste 10 minutes peut-être, l'occasion de parler de cet autre versant de ce continuum dont tu parles, un continuum en fait de solidarité qui est une réaction à à une situation commune en fait, à une oppression commune, et du coup c'est vrai que c'est présent aussi dans ton bouquin.
Oui, c'est quelque chose que j'essaie de faire dans la conclusion, c'est-à-dire je comprends bien que l'ensemble du bouquin soit quand même très attaché à décrire les luttes, c'est-à-dire ne pas seulement décrire ce contre quoi elles se battent, mais également comment elles s'organisent. Il est bien évident que c'est un livre qui n'est pas forcément facile à lire, dans la mesure où c'est énormément de violences coloniales et de massacres, de choses absolument terribles. Et du coup, dans la conclusion, j'essaye, au risque de tomber un petit peu dans la naïveté parfois, mais c'est vraiment pas grave parce que parfois il faut justement prendre ce risque-là, c'est important, de parler de comment... De parler de questions telles que celles des réparations, de la décolonisation, de la mémorialisation, et effectivement des solidarités qui est absolument centrale dans ce que j'essaie de faire, y compris avec le magazine. Et donc effectivement, c'est bien de le dire comme tu l'as dit, c'est-à-dire de dire que ça fait partie de ce continuum-là aussi, parce que il faudrait surtout pas conclure de tout ça qu'en fait les peuples colonisés n'ont en commun entre eux que la violence de leur colonisateur, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et notamment dans le chapitre sur Kanaky, je parle d'une conférence qui a été organisée en 1985 à Pointe-à-Pitre, qui s'appelait la conférence des dernières colonies françaises. Il y avait aussi le nom en créole dont je vous ferai gré ici. Et au sein de laquelle d'ailleurs le FLNKS était vraiment porté comme des héros qui se battaient extrêmement bien contre l'empire colonial. Et donc effectivement des mouvements indépendantistes ou autonomes guadeloupéens, martiniquais, guyanais, réunionnais, mahorais, comoriens, polynésiens et kanaks. Et donc on peut voir effectivement un certain nombre de solidarités, et toujours aujourd'hui, enfin je cite Survie à ce moment-là, parce qu'il y a une très belle brochure de fait sur... proposant des conseils totalement amicaux et pas du tout des conseils d'autorité entre guillemets sur peut-être les choses à, en tout cas sur leur connaissance évidemment accrue des principes sur lesquels la France-Afrique est construite et les pièges à éviter dans la négociation d'une indépendance du pays kanak, quoi. Donc c'est aussi le genre de solidarité tout à fait opérative qu'on peut mettre en avant.
Merci.
Je t'ai fait une belle transition.
Ouais, alors du coup, donc merci pour la référence à ce travail. Je mentionne que c'est une commande, en fait, enfin une demande, ouais. des contacts qu'on a pu avoir avec le mouvement indépendantiste majoritaire là-bas, qui voilà, suivent depuis longtemps ce qu'on fait et nous ont dit voilà, on a besoin de votre expérience là-dessus. On ne l'a pas pondu comme ça, spontanément, c'est une demande de leur part. Par ailleurs, on a aussi servi d'intermédiaire, c'est-à-dire que par notre biais, on a essayé aussi de mettre en relation directement les militants, militantes, enfin militants, hein, on ne va pas se voiler la face, c'est beaucoup des hommes, au FLNKS avec des personnes engagées dans différentes luttes dans différents pays africains, notamment contre le franc CFA, etc. Voilà, on essaie de jouer ce rôle-là. Voilà, du coup, je mentionne aussi, au passage, un peu d'actualité qu'on peut avoir ces temps prochains. Sur le sujet de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie directement, donc à l'approche du référendum, s'il n'est pas reporté, ce qui quand même est une éventualité vu la situation sanitaire là-bas, il pourrait être, donc se tenir le 12 décembre, mais aussi être donc plus tard. On va proposer donc des événements de soutien, et en tout premier, ce qui me vient en tête, c'est le 30 octobre. On va proposer aux personnes qui le souhaitent un temps de formation, tout simplement, sur l'histoire, les luttes kanak, et aussi un peu en partie les luttes de solidarité qu'il y a pu y avoir en France.
Donc ça se passe où ?
Ça se passera dans les locaux de Solidaire à Toulouse. Il y aura de la communication prochainement.
Au Mirail ?
Tout à fait, rue Jacques Babinet. Voilà, et donc ça sera le 30 octobre. Ce week-end, donc, se tient à Montpellier le sommet France-Afrique à la convocation du monarque Emmanuel Macron, où du coup on organise avec d'autres un contre-sommet à Montpellier, donc quelle occasion de se rencontrer, d'échanger, d'analyser des choses ensemble et de manifester. Il y a un bus qui est affrété par le collectif Stop France-Afrique à Toulouse. Donc vous pourrez retrouver les infos sur le site de Survie31, survie31.overblog.com. Donc si vous voulez vous y rendre, c'est l'occasion de croiser du monde, de croiser différents collectifs engagés contre la France-Afrique, le néocolonialisme, et des collectifs de sans-papiers qui viennent pour l'occasion. Et ce week-end aussi à Toulouse, on soutient aussi donc l'organisation d'un événement donc au Poum. Poumbat, donc c'est les vrais savent. Du coup,
avec le collectif Autonomie.
Voilà, exactement.
Qui sera bientôt dans le magazine.
Ah, bah vous faites bien, il mérite. Et elle mérite aussi. Et donc, il y a une mise en scène, donc c'est un temps mis en scène par un collectif de Grenoble sur le caractère colonial de la répression aux frontières. Voilà, j'ai plus le titre exact en tête et j'avoue que je galère avec mon téléphone pour
peut-être
vous le donner.
Peut-être que vous pouvez, on peut rediriger les auditrices, auditeurs sur le site iata.info où il y aura sûrement les infos. On n'a pas eu le temps de parler d'enquête critique.
Allez voir enquêtecritique.org.
Voilà, vous pouvez aller voir enquêtecritique.org et on trouvera un autre moment pour en parler. Puisque peut-être pour finir, est-ce que Assia. Est-ce que tu pourrais présenter un petit peu cette édition des premiers matins de novembre c'est une yes, jeune rapidement. Édition, non ?
C'est une petite maison d'édition qui est née en 2017, qui a pour but d'éditer des ouvrages principalement anticolonialistes, anti-impérialistes et antiracistes. C'est la ligne, c'est le fil rouge de nos livres. Voilà, on essaye d'écrire, de faire écrire et d'éditer principalement des militants, c'est-à-dire des gens qui sont au cœur des luttes, qu'ils soient morts ou qu'ils soient vivants. Et pour pas écrire... Si, Léopold, tu en fais partie. Pour pas écrire sur ou avec, mais pour justement avoir des écrits qui puissent sortir depuis les luttes, et c'est vraiment très important pour nous, la différence. Parce qu'on veut que nos bouquins, ce ne soient pas des bouquins académiques, mais ce soient vraiment des outils qui servent à la compréhension. Et plus de compréhension, ça permet de transformer le monde, quoi. Donc, voilà. On a un lien particulier, un attachement particulier à la question palestinienne, parce que c'est une question que je pense est un peu éludée dans l'édition française. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'histoire de l'édition palestinienne, bien sûr, il y en a une, mais c'est vrai que c'est dur et du coup, on a un attachement particulier pour cette question-là, pour cette problématique-là. Et voilà, je ne sais pas, c'est très dur de faire très rapidement un résumé de plusieurs années d'édition, mais vous me réinviterez, je reviendrai.
Oui,
PMNédition.com.
Voilà.
Avec grand plaisir. Et donc, on rappelle, le rendez-vous, c'est ce soir pour vous retrouver tous les trois et plus encore, à 18h au kiosque 36 rue Casanova, Daniel Casanova, animé par Mathieu.
Et si ça ne suffit pas juste nos personnes, venez au moins prendre des stickers de soutien à la lutte kanak.
Trop bien. Ben, on espère vous merci beaucoup d'être venu et puis je ne sais jamais faire la transition vers la suite, mais
merci
je ne peux pas dire au revoir.
Je comprends. Au revoir.
À bientôt.
À bientôt.
Salut tout le monde.
Salut. À toi.